Les titres du journal.
Une étape cruciale franchie hier à Châteaudet. La pose de la première pierre du futur pôle santé du Pays d'en Haut. Une cérémonie qui s'est déroulée en compagnie de la ministre vaudoise de la Santé, Rebecca Ruiz. Nous l'entendrons dans un instant. Un comité interparti milite pour la gratuité des transports publics dans le canton de Vaud. Il a lancé hier son initiative. 12 000 signatures doivent être récoltées en 4 mois. Foin de grande campagne mondiale en faveur du tourisme de chez nous. Suisse Tourisme a fait ce matin la promotion des manifestations touristiques et autres marchés pour l'automne. Du sport aussi dans ce journal, le coup d'envoi du Tour du Chablais 2021, c'est pour ce soir à Roche. Il s'agira de la 34e édition de l'épreuve de course à pied. Elle avait été annulée l'an dernier, puis reportée de plusieurs mois cette année.
Et côté météo, ce sera mitigé pour cet après-midi avant un retour du soleil demain. Météo complète à la fin de ce journal. Le journal de la mi-journée avec Yves Terrani. Bonjour.
Bonjour. Laurent Verly renonce à se présenter au Conseil d'État vaudois, souvent cité comme candidat potentiel. Le conseiller national PLR et ancien syndic de Montreux veut se consacrer pleinement à sa fonction fédérale. Il met également en avant de nouvelles responsabilités au sein de l'organisation de la francophonie. Le PLR choisira sa stratégie et ses candidats en congrès le 22 septembre prochain.
À Châteaudet, le projet de pôle santé du Pays d'en Haut va de l'avant.
La pose de la première pierre des établissements médico-sociaux Les Gentianes et le Rond-Point s'est déroulé hier. Les deux EMS appartiennent respectivement aux fondations Pôle Santé du Pays d'en Haut et Cogest EMS, deux acteurs majeurs dans la réalisation de ce projet. Après 10 ans d'attente, le début symbolique des travaux a donc pu être célébré hier. Une cérémonie qui a eu lieu en présence de la conseillère d'État vaudoise chargée de la santé, Rebecca Ruiz.
Disons une pause symbolique et en même temps des chantiers qui démarrent fort avec un nouvel EMS, avec un nouvel établissement psychosocial médicalisé juste à côté de l'hôpital pour ce qui est, ce qui sera aussi pour toutes ces prochaines décennies le pôle santé de la région du Pays d'en Haut. C'est un endroit qui est extraordinaire avec une vision qui a été portée par les autorités communales, les autorités cantonales, par tous les acteurs du système de santé qui sont d'accord de se réunir, de mutualiser leurs forces pour la prise en charge des patients. On le sait, on a des enjeux démographiques extrêmement importants dans les années à venir. La population va vieillir, on ne pourra pas envoyer tout le monde à l'hôpital, on devra prendre en charge les gens là où ils sont, dans la communauté et aussi avec un partage de connaissances entre les professionnels de la santé. Et ce projet est la concrétisation de cette volonté.
C'est-à-dire que ces regroupements, comme le pôle santé ici, c'est un peu l'avenir d'avoir plusieurs entités différentes, d'avoir un hôpital, des EMS qui sont tous au même endroit.
Alors, ce type de projet ne peut pas se faire partout dans le canton. On a 3 pôles de santé dans des régions bien particulières, ici au Pays d'en Haut, à la Vallée de Joux, du côté également de Sainte-Croix. Dans les autres régions du canton, on a des hôpitaux avec plus ou moins de spécialités, des plus petits, des hôpitaux intercantonaux. On a différentes, disons, dispositifs sanitaires, mais évidemment que ce que le canton pousse, c'est cette coordination, cette intégration des soins partout, parce qu'on sait que la prise en charge de demain ne pourra que reposer sur des collaborations, puisqu'on ne pourra pas, comme je vous le disais, envoyer tout le monde systématiquement à l'hôpital.
Rebecca Ruiz au micro de Quentin Frey. L'inauguration du pôle santé du Pays d'en Haut est prévue pour début 2023. Les travaux devraient coûter environ 36 millions de francs, une somme répartie entre le canton, la commune et les deux fondations.
Prendre le train ou le bus dans le canton de Vaud coûte trop cher.
Oui, c'est du moins l'avis du comité d'initiative pour des transports publics gratuits qui s'est réuni hier à Lausanne à l'occasion du lancement de la récolte de signatures. Le mouvement regroupe à la fois des organisations politiques allant de Solidarité au Parti Pirate et des entités citoyennes comme l'association de défense des retraités. Il ne veut en revanche pas compter sur le soutien des Verts et du Parti Socialiste qui, tous deux, ont décliné. Lucas Schalbetter, membre du POP et coordinateur du comité d'initiative, s'exprime sur l'objet de son engagement.
On pense que les transports publics gratuits, c'est une réponse cohérente et efficace à une triple crise qui pointe le bout de son nez, une crise économique, une crise sociale et une crise écologique. Et on pense que l'État de Vaud peut faire cet investissement pour la transition écologique, pour le pouvoir d'achat des ménages et pour l'économie locale.
Vous parlez de crise économique, est-ce que c'est pas justement mettre en péril l'économie du système vaudois ?
Pas du tout, c'est un investissement de l'État justement pour le pouvoir d'achat. C'est quand même 7,7% du budget des ménages en moyenne qui sont utilisés pour les transports. Si aujourd'hui les transports publics deviennent gratuits, eh bien c'est de l'argent en plus qui vient dans le porte-monnaie de nombreuses familles vaudoises et notamment des classes populaires, des classes moyennes. Et avec ça, on peut espérer que la consommation dans les commerces locaux, dans l'économie locale, pour la culture, pour le sport, soit favorisée.
Lucas Schelbetter répondait à nos confrères de LFM. Notons encore que le comité a 4 mois pour réunir les 12 000 paraphes. À noter que Vaud n'est pas le premier canton roman où de telles discussions émergent. Neuchâtel comme Fribourg ont en effet vu une initiative de ce type aboutir lors de ces dernières années. Le peuple devrait voter. Vaud obtient la 6e place de l'indicateur de compétitivité des cantons. Ce classement publié aujourd'hui par l'UBS permet de voir quel canton a le meilleur potentiel de croissance de Suisse. Le Valais pointe lui à l'avant-dernier rang, en dessous de la moyenne. L'analyse de la banque suisse cache toutefois de fortes disparités à l'intérieur des cantons. Par exemple, le pays d'en haut figure en queue de classement des régions analysées, et ce, malgré la bonne position du canton de Vaud. Du côté du Valais, le bas se révèle plus intéressant que le haut, même s'il ne dispose pas de pôle régional majeur, relève encore l'étude. L'UBS souligne enfin que la crise du coronavirus n'a quasiment pas eu d'impact dans l'établissement de ce classement. 8 discothèques valaisannes ont été contrôlées le week-end dernier. L'objectif de la police était de vérifier que les prescriptions Covid en vigueur étaient respectées. Si la fréquentation de ces établissements est restée très faible, les mesures sanitaires étaient observées par l'ensemble des exploitants. Seule une infraction a été constatée et c'était à Zermatt. 17,5 millions de francs ont été attribués à la culture vaudoise. À la fin juin, 322 bénéficiaires ont pu être indemnisés pour un montant de 11,5 millions. Ces aides financières visaient à atténuer l'impact économique de l'épidémie. Par ailleurs, 143 demandes de contribution à des projets de transformation sont parvenues au service des affaires culturelles, parmi lesquelles celle du Montreux Jazz Festival pour son édition 2021. Le canton a ainsi versé près de 6 millions de francs aux entreprises qui ont décidé de développer de nouvelles stratégies. L'avenir du Romandie, l'un des hauts lieux de la vie nocturne lausannoise, s'éclaircit. Un retour serait possible sous les arches après la rénovation du Grand Pont à l'horizon 2023. En attendant, l'association Elana Veva, qui exploite les lieux, prévoit de s'épanouir hors mur. Covid-19 et infiltration d'eau ont constitué la double peine pour le Romandie. Pour rappel, à la suite d'importantes infiltrations d'eau dans ses locaux en juin 2020, l'exploitation du lieu est devenue impossible, souligne l'association. Et la Naveva aujourd'hui dans un communiqué. Sans avoir de date précise pour l'instant, la réouverture pourrait avoir lieu au courant 2023. Le lancement des travaux de rénovation du Grand Pont est en effet prévu pour janvier 2022. Aigle accueille les 4e prix errants Rencontre suisse de l'œnotourisme. L'événement se tiendra le 3 septembre au château en présence des porteurs de 15 projets nominés venant de tout le pays. L'abbaye de Salla à Aulon en fait notamment partie. Le jury sera dirigé pour la première fois par Robert Kramer, président de Swiss Wine Promotion. Une région est également mise à l'honneur pour la première fois. Il s'agit cette année du Mendrisiotto au Tessin. Par ailleurs, tous les vins primés au mondial du Chasselas seront à découvrir dans le cadre de cette manifestation. La 4e vague de la pandémie menace les hôpitaux, une situation préoccupante selon le chef de la section gestion de crise et collaboration internationale de l'Office fédéral de la santé publique. Patrick Matisse l'a affirmé hier devant les médias. Principale source d'inquiétude donc, la hausse du nombre d'hospitalisations. Le niveau s'approche de celui de la 3e vague au printemps dernier. Pour ce qui est des contaminations, la Suisse a enregistré hier près de 3000 nouveaux cas en 24 heures. Et puis dans le même registre, vous dire que la 4e vague de la pandémie est celle des non-vaccinés. C'est un avertissement lancé ce matin par le président de la Société médicale de Suisse romande dans une interview donnée à La Liberté et ses partenaires. Philippe Eggimann y appelle les Suisses encore non immunisés au Covid à lever la manche de leur t-shirt. Et le président s'inquiétait du nombre d'hospitalisations à la hausse. Il appelle par ailleurs à la plus grande prudence dans les écoles. L'appréciation des analystes pour les perspectives à court terme de l'économie helvétique a basculé en août du côté du pessimisme, selon l'indicateur idoine compilé par The CFA Society Switzerland et Crédit Suisse. Après avoir atteint un zénith en mai à plus de 70 points, l'indice CSCFA avait entamé un mouvement de repli en juin, 51,3 points. Il s'inscrit désormais en territoire négatif à moins 7,8 points. Détaille l'édition mensuelle du sondage diffusé aujourd'hui. Des dégringolades de cette ampleur n'avaient été observées que 2 fois précédemment, à savoir au moment de la levée du taux plancher euro-franc et lors de l'éclatement de la pandémie au printemps 2020.
Faut-il y voir un signe du désarroi de la branche ? Suisse Tourisme fait ce matin la promotion des manifestations folkloriques et des marchés en Suisse pour l'automne.
Et oui, habituellement, l'organisation lance de grandes campagnes partout dans le vaste monde et la voilà réduite à demander aux Helvètes d'aller fréquenter les fêtes traditionnelles locales. On écoute à ce propos la porte-parole de Suisse Tourisme, Véronique Canel.
Bien sûr que la situation est difficile, mais faire la promotion de fêtes traditionnelles, fêtes du vignoble, marché aux châtaignes ou autres, c'est pas une exception, on l'a déjà fait par le passé parce que, effectivement, les traditions vivantes sont très importantes. Elles attirent aussi un public toujours très nombreux. On compte beaucoup sur la clientèle de proximité, la clientèle suisse, mais aussi la clientèle des marchés européens proches pour cet automne.
Mais est-ce que vous n'auriez pas intérêt à Suisse Tourisme de mettre toute votre énergie pour aller draguer ces touristes étrangers, européens en particulier ?
Mais c'est ce qu'on fait. On vient d'ailleurs de lancer une campagne qui cible un public jeune et féminin qui a envie de passer des courts séjours dans les villes suisses. C'est une campagne qui cible les marchés européens proches. On est très actifs sur les marchés européens actuellement.
Des propos recueillis par notre correspondant au Palais fédéral, Serge Jubin.
L'activité humaine et économique épuise les ressources de la planète.
Et nous n'avons qu'une terre, clament les Jeunes Verts. Ils ont lancé hier à Berne une initiative populaire qui entend limiter l'activité humaine et économique aux limites planétaires. Ces limites sont calculées par l'Office fédéral de l'environnement. Elles déterminent ce que l'on peut prélever sur la planète en une année. On est largement au-delà. L'initiative souhaite inscrire un principe général de responsabilité environnementale dans la Constitution. Comment l'appliquer ensuite ? Notre correspondant à Berne, Serge Jubin, encore a posé la question au co-président des Jeunes Verts Suisses, Oleg Gafner.
Ce qui est peut-être novateur, c'est qu'on n'aura pas une loi d'application. On amène 6 sujets de discussion dans cette initiative. Le changement climatique, la biodiversité, la consommation en eau, l'utilisation des sols et les apports en azote et en phosphore. Et donc on va devoir décliner tous ces sujets par des lois spécifiques. Donc c'est la transition écologique, comme on en parle depuis longtemps. C'est des infrastructures publiques plus fortes, comme des transports publics plus forts, pour inciter à un changement sociétal. Ce sera vraiment un changement de paradigme sur le transport, le chauffage, la manière de consommer.
C'est 6 fois une loi sur le CO2 par exemple ?
Pas que sur le CO2. Le CO2 est une des limites planétaires qu'il faut surveiller, c'est celle qui est la plus dépassée, mais vous avez la biodiversité, on est dans une extinction de masse, la consommation en eau aussi, en Suisse on a une très grande consommation en eau par notre industrie, la sécheresse augmente en Suisse aussi, parce qu'il n'y a pas que la crise climatique, il y a la crise biodiversitaire, il y a d'autres crises, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les crises environnementales.
Vous demandez aussi dans l'initiative que ce soit socialement acceptable, est-ce que ça ne contredit pas l'objectif global ?
Bien au contraire, l'écologie est quelque chose d'intrinsèquement social, et c'est bien parce que les projets du Parlement jusqu'à là ne l'étaient pas, qu'on a rajouté d'ailleurs cet article, parce qu'on a des mesures simples, je reviens au transport public gratuit, si on compense la réduction du parc automobile par un développement du réseau de transport public, on modifie les comportements sans pénaliser les personnes et ça c'est vraiment fondamental. Si on veut tous changer, donner la possibilité à tout le monde de vivre plus écologiquement, il faut que l'État donne les moyens à la population et ne demande pas qu'elle stigmatise les plus pauvres. Voilà pourquoi c'était absolument indispensable.
Forcément, si on veut sauver la planète, il faut que toute la planète s'y mette. Est-ce que l'intervention de la seule Suisse n'apparaîtra pas comme risible ?
Non, parce qu'on a une responsabilité historique. On a un pays qui a joué de notre puissance de pays du Nord, on a joué sur la surexploitation des ressources, donc on a une responsabilité vis-à-vis de ces pays, de ces populations-là, et puis ensuite aussi une responsabilité de la Suisse d'être un modèle et de faire peut-être aussi œuvre de bons offices climatiques, on peut parler de diplomatie climatique, c'est quelque chose de très peu thématisé jusqu'à là.
On comprend bien à vous entendre, ça paraît compliqué. Comment est-ce que vous allez expliquer et convaincre ?
C'est ambitieux. L'initiative est ambitieuse, mais on parle du constat, c'est qu'on est dans une situation d'urgence et puis on attend les réponses politiques qui ne viennent pas. Et ensuite, justement, d'insister sur ce principe d'acceptabilité sociale, on fait ça ensemble. Et ce n'est pas une mesure qu'on rajoute dans notre argumentaire pour faire joli, c'est intrinsèquement lié à notre objectif. Donc voilà, dire qu'on veut une transition avec la population fait partie de notre argumentaire. Et puis justement, de rappeler qu'on n'amène pas un seul sujet, on amène l'ensemble des thématiques qui sont importantes pour un changement. Et comme ça, on pourrait être plus à l'aise peut-être sur les questions de CO2 pour certains de mes camarades et peut-être d'autres sont plus à l'aise sur la notion de consommation d'eau. Ça permet à tout le monde de pouvoir participer au débat.
Ce débat que vous amenez, on l'entend des grévistes du climat habituellement qui sont dans la rue. Vous voulez être la partie, on dira, institutionnelle de ce combat ?
Elle est complémentaire. Elle ne cherche pas à s'opposer ou à combler un vide. Au contraire, on doit justement occuper un maximum d'espace. Donc je suis très content que les grévistes du climat fassent ce qu'ils font actuellement. Nous, on amène un autre outil, puis d'ailleurs peut-être de préciser qu'on rajoute un délai d'application de 10 ans, précisément dans le but que notre outil ne soit pas vain et ne soit pas simplement de la communication politique et que, en cas d'acceptation, l'initiative soit appliquée de manière conséquente.
Les initiatives en général, les initiatives vertes et environnementales en particulier, ne passent pas la rampe parce que c'est un exercice gratuit que vous menez.
Non. On peut voir, par exemple, l'initiative sur les multinationales responsables avait eu les codes de la population. On est dans le même genre de débat, avec une priorisation un peu plus sur l'environnement. On a bien 4 ans pour convaincre la population et on ne va pas s'arrêter maintenant.
Serge Jubin qui interrogeait donc Oleg Gafner. Les Jeunes Verts et leurs partenaires en faveur de la responsabilité environnementale ont jusqu'au 24 février 2023 pour recueillir 100 000 signatures. Les cantons pourront déterminer plus facilement le périmètre des agglomérations. Le Conseil fédéral a modifié aujourd'hui deux ordonnances pour mettre en œuvre cette demande du Parlement. Les communes qui ont le droit de recevoir les contributions du programme en faveur du trafic d'agglomération pourront être déterminées de manière plus souple. La Confédération prendra davantage en considération les aspects liés à l'aménagement du territoire dans ses décisions. Jusqu'à présent, les critères statistiques étaient prépondérants pour évaluer si une commune avait droit ou non à des contributions. Les modifications apportées aux deux ordonnances font suite à une motion de la Commission des Transports du Conseil des États. Vous dire aussi que la production de sucre suisse sera soutenue jusqu'au 31 décembre 2021. Le Conseil fédéral a prolongé aujourd'hui la protection douanière minimale. Depuis que l'Union européenne a libéré les volumes de production et supprimé la restriction à l'exportation en 2017, les prix du sucre ont chuté. La Suisse n'y a pas échappé. Le Conseil fédéral avait déjà pris des mesures l'année dernière.
La pandémie liée au coronavirus a été stable dans le monde la semaine dernière pour la première fois en près de deux mois.
Les nouveaux décès ont légèrement augmenté pour s'établir à près de 69 000, mais cette extension est plus importante en Europe. Selon des données de l'Organisation mondiale de la santé publiées hier soir à Genève et qui portent jusqu'à dimanche matin, plus de 4,5 millions de nouvelles infections ont été observées dans le monde, soit moins de 85 000 cas supplémentaires par rapport aux nouvelles infections de la semaine précédente. L'Europe est stable avec un peu moins de 1,2 million de nouvelles contaminations. Parmi les autres zones, des augmentations ont été déplorées sur le continent américain et dans le Pacifique occidental. Elles sont compensées par les reculs dans une partie de l'Asie et en Méditerranée orientale. Côté nouveaux décès, on l'a dit, l'Europe a été en revanche la région où la situation s'est le plus détériorée la semaine dernière. Elle a dû faire face à plus de 10% de nouvelles victimes supplémentaires, un peu plus que le continent américain. La Cour européenne des droits de l'homme a rejeté hier une requête de 672 pompiers professionnels et volontaires contre l'obligation vaccinale contre le Covid-19 en France, a-t-on appris aujourd'hui. Elle estimait que ces demandes étaient hors du champ d'application de l'article 39 de son règlement, article qui permet de la saisir selon une procédure d'urgence lorsque les requérants sont exposés, je cite, à un risque réel de dommages irréparables. Les pompiers avaient invoqué les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme relative au droit à la vie et au droit au respect de la vie privée et familiale. Et on poursuit ce journal avec une page de sport. En football, Young Boys participera pour la deuxième fois de son histoire à la phase de groupe de la Ligue des Champions. Les Bernois ont validé leur ticket hier soir à Budapest. Opposés à Ferencváros, les quadruples champions de Suisse en titre ont remporté le match retour des barrages de qualification sur le score de 3-2. Un résultat qui avait déjà été celui de la rencontre aller la semaine passée. Malgré plusieurs occasions manquées de tuer plus rapidement cette confrontation, les joueurs Young Boys ont fini par atteindre leur objectif. Ils disputeront la prestigieuse et lucrative compétition européenne. De quoi ravir l'entraîneur de Young Boys, David Wagner.
Ja, cool. Glückwünsche gebe ich gerne zurück.
Oui, c'est vraiment super. La soirée a été fantastique. Les gars ont à nouveau livré une performance incroyable qui nous a permis de nous qualifier. Je suis vraiment heureux pour les joueurs, le staff, les supporters et bien sûr les dirigeants qui ont créé une très belle équipe. J'imagine qu'à Berne, les fans ont dû fêter cette qualification. Maintenant, j'espère que l'ambiance sera au rendez-vous pour la suite. C'est ce qui va nous donner de l'énergie.
Des propos traduits par nos confrères de Radio Fribourg. À noter que le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions est prévu demain soir à Istanbul, en Turquie.
En course à pied, la 34e édition du Tour du Chablais va enfin pouvoir commencer.
Et oui, la longue attente est presque terminée pour les organisateurs, contraints d'annuler l'épreuve l'an dernier avant de la reporter cette année à cause de la crise sanitaire. Ils voient leur patience et leur persévérance être enfin récompensées. Durant le prochain mois, 5 étapes vont rythmer la boucle chablaisienne entre Roche, Aulon, Yvorne, Champéry et Vouvry. Au final, seule Montée s'est retirée de la manifestation qui aurait initialement dû se tenir au printemps 2020. Sur les 5 autres sites, les sociétés organisatrices ont décidé de poursuivre l'aventure. Les précisions du patron du Tour du Chablais, Sébastien Nimèche.
Toutes les sociétés ont répondu présent pour poursuivre l'aventure. C'est vrai qu'on a perdu Montée en cours de route, pas pour des questions de motivation, d'engagement ou de volonté, mais vraiment pour des questions organisationnelles où ils avaient la glace dans la patinoire, et c'était plus possible pour eux de l'organiser. Et puis il y avait aussi d'autres empêchements qui font qu'on a dû malheureusement perdre une société, faire 5 étapes au lieu de 6.
Il a aussi fallu composer, il faut aussi composer avec des mesures sanitaires qui ont changé très régulièrement. Comment, à ce niveau-là, vous avez composé avec cette incertitude, avec cette situation qui n'avait de cesse d'évoluer ?
Bah, en fait, on n'a aucune garantie sur les futures étapes. On a l'autorisation pour organiser la première étape, mais chaque étape est soumise à autorisation qui nous arrive quelques jours avant le début de la course. On n'a que des autorisations provisoires parce que la situation peut évoluer très rapidement dans un sens comme dans l'autre. Actuellement, on a mis pas mal d'éléments en place pour justement garantir l'organisation du Tour du Chablais avec la limitation du nombre de coureurs, pas d'inscription sur site, les gens doivent sélectionner leur étape, doivent porter le masque, il y a des Covid Angels, pas plus d'un accompagnant par mini et par écolier pour justement éviter d'être plus de 1000 parce que sinon on serait considéré comme grande manifestation et ça impliquerait énormément d'inconvénients. Il faudrait sécuriser les zones, fermer les zones, faire des contrôles, ce qui est juste impossible pour notre manifestation.
Entre les restrictions sanitaires et les changements de date, les contraintes pour l'organisation de ce Tour du Chablais 2021 ont été nombreuses, mais pas de quoi refroidir l'Union des sociétés locales de Roche, chargée de mettre sur pied la première étape ce soir. Les explications du responsable de ce rendez-vous inaugural de la boucle chablaisienne, Claude Schneeberg.
Je ne veux pas dire que c'était facile. On a trouvé notre monde, on a les gens. Heureusement qu'on a, c'est l'USL de Roche qui chapeaute après pour organiser cette étape aussi, ce qui représente les sociétés de toute notre commune. Donc, ça a aidé à trouver du monde. Mais c'est vrai que pour relancer les sociétés et tout, surtout à la fin des vacances et tout, on devait trouver du monde pendant les vacances. On n'était pas sûr au printemps déjà de repartir cet automne à ce Tour du Chablais. C'était pas évident, mais le monde, les gens ont bien joué le jeu, les bénévoles sont là et tout, puis je les remercie vivement.
Des propos recueillis par Julien Traxel. Cette première étape du Tour du Chablais est prévue à 19h ce soir à Roche. Elle s'étalera sur un parcours totalement plat de 9,3 km. Et c'est à suivre, bien sûr, sur les ondes de Radio Chablais dès 16h cet après-midi.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Store Chablais, partenaire Stobag pour vos protections solaires et portes de garage. Storechablais.ch.
Un stratus présent sur le plateau, les Préalpes et régionalement dans la vallée du Rhône avec une limite vers 1400 mètres. Par contre, en dessus et dans les autres régions, le temps devrait être bien ensoleillé. On attend quand même une dissipation du stratus durant cette journée. En montagne, par contre, le développement du cumulus, va se faire dans l'après-midi. Et la bise devrait faiblir durant cette suite de journées sur la Riviera. Pour les températures, 23 en pleine, 19 à 1000 mètres et 13 à 2000. Enfin, pour demain, Météo Suisse nous annonce un temps bien ensoleillé. Il faudra quand même s'attendre en cours d'après-midi et en soirée à des passages nuageux en augmentation le long des Préalpes. Pour les températures, entre 11 et 24 en pleine, entre 10 et 20 à 1000 mètres et entre 5 et 12 à 2000. La météo à 6 jours, radiochablais.ch.